Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 sur l'émission Pour un bout de papier. On est ensemble pour une heure de folie sur des thématiques endiablées. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette heure? La première partie sera consacrée à un montage son sur... pourquoi j'ai perdu mes notes?
Sur la réforme du droit d'asile.
C'est ça. Je ferais bien de mettre un casque, j'entendrai mieux.
Oui, c'est clair.
Merci. Et puis, en deuxième partie, on reviendra sur la situation de Calais. On reparlera de ce qui s'y passe, des violences. Et on parlera aussi de ce qui se passe sur Toulouse, notamment des transferts entre Calais et Toulouse au centre de rétention de Cornebarieux, avec Michel qui est avec nous en studio du collectif du Cercle des Voisins de Cornebarieux.
Voilà, et puis quelques annonces en fin d'émission.
Voilà, un petit agenda.
Welcome. Du coup, peut-être le reportage,
ouais,
direct.
Ouais, du coup, on va vous passer un montage qui a été réalisé avec deux personnes qui travaillent en fait en centre d'hébergement, où le montage va faire un peu une présentation de la réforme du droit d'asile dans une première partie, et puis la deuxième partie sera un petit peu plus consacrée à comment on peut s'attendre que ça s'applique, puisque du coup la loi est passée cet été, le 29 juillet, si je me souviens bien, et commence tout juste à être appliquée là depuis novembre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore trop de recul sur ce que ça va donner, mais bon, il y a des choses quand même qu'on peut un peu s'imaginer. Bon, pour le contenu, je vous laisse écouter ce qui va suivre.
Et on se retrouve derrière. Yes.
On commence par le pré-accueil à la plateforme régionale d'accueil des demandeurs d'asile. Ben, c'est là où on prend le premier rendez-vous pour la préfecture. Donc actuellement sur Toulouse, la Croix-Rouge est assignée à faire cette tâche au moins jusqu'à décembre, où il les aide à remplir ce formulaire de demande, où il les aide à avoir des bons pour faire des photos qui sont nécessaires à la demande d'asile. Et donc, il leur permet d'avoir ce premier rendez-vous. Accessoirement, ils peuvent les aider à trouver un moyen de pouvoir être hébergé via le 115 ou le SIAO, et également des aides pour la restauration ou la vêture. Donc, le premier rendez-vous en préfecture, qui devrait être 3 jours après. Bon, actuellement, on peut voir qu'il y a eu 3 semaines d'attente, et puis aujourd'hui, c'est réduit à 1 semaine d'attente avant d'avoir le premier rendez-vous. Donc à ce rendez-vous à la préfecture est pris en premier les empreintes, donc Eurodac, pour voir si la demande d'asile n'a pas été effectuée dans un autre pays de l'espace Schengen. Donc à ce moment-là, il y a 3 possibilités. Soit dans le premier cas, ils ont déjà fait une demande ailleurs et donc ils seront répertoriés dans le fichier des empreintes. Et à ce moment-là, ils sont mis sous Dublin en attente de réponse du pays d'accueil où a été effectuée les empreintes. Donc le second cas, c'est d'être d'un pays sûr. Donc là, ils sont mis en procédure accélérée. Donc ils auront à ce compte-là la même démarche d'asile, mais qui sera accélérée avec seulement une attestation de demandeur d'asile de 6 mois. Et le troisième cas, donc, c'est la demande d'asile normale, où ils vont forcément avoir une attestation pour 9 mois, là, où ils iront ensuite, que ce soit en procédure accélérée ou normale, passer au guichet asile, guichet unique de demandeurs d'asile, pour faire la demande de CADA via des personnes aujourd'hui représentées par l'OFI, et leur permettre d'accéder à un CADA plus ou moins rapidement en fonction des demandes. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui qui a changé, c'est un questionnaire qui permet d'évaluer la vulnérabilité des personnes. Ce questionnaire est basé essentiellement sur un principe d'objectivité. C'est que sur la visibilité de la situation de la personne. Donc, est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle a un handicap particulier qui est visible par l'agent de l'OFI? Ou un problème de santé important qui lui permettra de peut-être avoir un principe de vulnérabilité qui lui permette de changer sa procédure. Parce que l'OFPRA a la possibilité de déplacer les personnes en procédure accélérée maintenant, en procédure normale, si elle estime que ce principe de vulnérabilité est suffisamment important. Donc dans ce cas-là, il peut être important aussi les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile de préciser ça auprès des agents de l'OFI. en leur stipulant bien ou en venant avec un certificat médical du médecin fermé qui sera donné à l'OFPRA directement.
Voilà, je prends la suite. Donc, on leur remet le dossier OFPRA ainsi que le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile et l'attestation de demande d'asile, qui est leur papier, leur nouveau papier d'identité, enfin d'autorisation de séjourner en France le temps de leur procédure. Une fois qu'ils ont leur dossier OFPRA, il y a une partie administrative dans ce dossier qui renseigne sur la famille. Et il y a une partie qui est liée au récit, comme dans l'ancienne loi. Donc, ils doivent rédiger leur récit qui explique qu'est-ce qu'ils ont vécu comme persécution ou autre, qui leur a poussé à quitter leur pays. Donc, qu'elle soit ethnique, politique, religieuse. Ce récit doit être traduit. Et pour la traduction, ça sera la PADA qui va les accueillir, qui est aussi Alofi. Donc, c'est la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, où ils vont remplir la partie administrative avec un interprète et où ils leur demandent d'écrire leur récit, généralement sur 3 pages, qu'ils font traduire ensuite. Mais le récit n'est plus du tout travaillé, voilà, parce que les personnes, les assistantes sociales de l'OFI n'ont plus le temps. Donc ils essayent de faire un suivi social, mais qui va être de plus en plus léger, déjà ils l'étaient. Et ils doivent envoyer ce dossier dans les 21 jours. En accusé de réception, bien sûr, que ce soit pour les procédures normales ou pour les procédures accélérées. À partir de là, ils vont donc avoir l'ADA, c'est leur on l'a dit, attestation de demande d'asile, qui est valable 9 mois pour les procédures normales, dites classiques, et 6 mois pour les procédures accélérées. Et donc, tous les 9 mois ou tous les 6 mois, ils renouvelleront cet ADA, qui remplace le récépissé, l'APS et le récépissé d'avant, avec 2 photos et une justification de résidence, donc de domiciliation. Une fois qu'ils ont envoyé leur dossier à l'OFPRA, ils attendent l'enregistrement, qui est une lettre de l'OFPRA, l'enregistrement de leur dossier à l'OFPRA. À partir du moment où ils ont l'enregistrement, ils vont pouvoir bénéficier d'une allocation qui s'appelait ATA avant et qui s'appelle également ADA, donc c'est le même nom pour les deux, et qui est l'allocation de demandeurs d'asile qui sera plus gérée par le Pôle emploi mais par l'OFI également. Où ils pourront également ouvrir un livret A pour toucher leur ADA, avoir droit à la CMU, voilà.
Et juste une petite précision, ouais. Est-ce que vous savez si le montant il est revu ?
Oui, le montant est revu à 6,80.
La composition familiale, en fait, maintenant rentre en ligne de compte. Ouais. Donc, ils vont évaluer combien il y a d'adultes dans la famille, les enfants. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui le percevra. Alors qu'avant, chaque personne, chaque adulte, le percevait de manière individuelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment un regroupement autour d'une personne référente dans la famille qui est décidée au guichet unique de demande d'asile. Quand il fait la demande de CADA, il fait en même temps l'explication de la demande d'allocation, qui est après envoyée au national. Ce qui risque de poser plusieurs problèmes, notamment puisque c'est que l'OFI au niveau national qui va le gérer.
C'est ça qui va être compliqué. Certaines compositions familiales vont y gagner, d'autres vont y perdre. Voilà, ça va être un petit peu, on va voir au fur et à mesure. Le seul avantage quand même de l'ADA, c'est que les personnes qui sont sous Dublin peuvent en bénéficier. Et ça, avant, ça n'était pas le cas.
Ainsi que les pays sûrs en procédure accélérée, ils auront droit jusqu'à la fin de la CNDA. Alors qu'avant, ils avaient le droit que sur l'OFPRA, la demande d'OFPRA. Mmh. Maintenant, ça sera vraiment tout le long de la procédure qu'ils y auront droit.
Et peut-être on peut dire CNDA ?
C'est le recours auprès de la Cour nationale des demandeurs d'asile.
Et du coup, c'est la suite. Mm. Là, une fois que notre petit demandeur d'asile il a son dossier enregistré auprès de l'OFPRA, il est en attente d'une convocation. Donc l'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés, de protection des réfugiés et apatrides, qui se trouve à Paris. Il n'y a qu'un seul OFPRA en France. Et du coup, l'OFPRA va convoquer la personne, là où les personnes, à Paris pour un entretien qui est dirigé par un officier. La personne passe son entretien, du coup, elle est interrogée par rapport à son récit, en sachant que l'OFPRA, à côté, fait un travail d'enquête dans le pays pour voir si la personne est réellement recherchée, si elle a réellement vécu des persécutions, si elle a... voilà. Une fois que l'entretien OFPRA est fini, la personne est en attente de réponse. Si l'OFPRA fait une réponse positive, ça veut dire que la personne va être réfugiée statutaire. Donc réfugié politique, il n'aura pas le droit de retourner dans son pays pendant 10 ans, il aura une carte de 10 ans. Voilà. Et si l'OFPRA fait un rejet, la personne a le droit de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc le recours est d'un mois. Et les délais d'examen, par exemple en procédure normale, sont à peu près de 5 mois. En fait, le but de cette loi, c'est de raccourcir les délais. C'est-à-dire que pour la procédure, pour l'OFPRA, par exemple, l'examen, on ne peut pas déterminer de délai. Ils n'ont pas voulu se prononcer en disant qu'il n'y aura pas de délai en procédure normale. Pour les procédures accélérées, l'OFPRA, il étudiera après l'entretien OFPRA sous 15 jours. Ou 96 heures quand les personnes se trouvent déjà en rétention, parce qu'on peut faire une demande d'asile en rétention. Et à partir du moment où la personne est en recours CNDA, ben c'est pareil, il y a l'enregistrement par la CNDA du recours. La personne a le droit à une aide juridictionnelle, à choisir un avocat à Paris. Et du coup, il peut assister à l'audience. Ce n'est pas une obligation d'assister à la CNDA. Par contre, c'est fortement recommandé. Désormais, il y a une chose qui a changé dans cette loi, c'est qu'à l'OFPRA, les personnes peuvent être assistées d'un avocat, d'un accompagnant, d'une association. Alors, il va y avoir plusieurs associations qui vont être agréées à assister à des entretiens OFPRA. Voilà, ça, c'est pour une procédure classique.
Mon histoire, celle d'un vulgaire vendeur à la sauvette. Jeune orané, errant de Hamri à la côte est. La faim nous creuse l'abdomen, jouqueté à la colle. Car ce pays nous a montré une certaine grandeur dans la colère. Je suis comme beaucoup d'autres, sans peur chaque semaine à survivre à travers tous nos problèmes relationnels. Un putain d'avenir incertain, je vis au jour le jour. Elle me dit que tout se joue sur la foi et que Allah seul même. Banal est mon quotidien, malgré tout ça c'est samedi. Toi que j'ai appris à prendre le bonheur comme il vient. Tu sais ici, la misère du monde est aussi mienne. Où est la jeunesse dorée qui se la pète en de gros cylindres. Plaidard officiel, une réalité classée d'une génération qui attend juste ce que lui a promis le ciel. La tradition ancrée dans la souche, à force me vautrer dans la boue. J'en ai perdu le sens et je n'ai pas su lui rester trop fidèle. Mon coup du siècle, traverser la mer. Car on m'a dit que le bonheur est à l'autre. Alors je veux voir le coup du sien. Chez nous la chance est rieuse, surtout quand elle sait d'où tu viens. Et comme elle s'est parée en rêve, car ça nous fait tout du bien. J'ai l'amour d'une mère pour mon pays, mais rarement le goût du miel. Car notre destin est peu probable et la mort balaye tout d'une main. Certains attendent et toi te vivent à travers une foutue seringue. Tant que récit, alors dis-moi ce que tu ressens à l'écoute du mien. Je donnerai tout pour avoir un peu de votre vie. Je prendrai tout, j'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est vaste, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Je donnerai tout pour avoir un peu de votre vie. Je prendrai tout, j'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est vaste, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Le jour j'y approche, je compte plus les minutes, les secondes. Et puis je compte plus chaque dinar mis à gauche. Rêve de fuir car ce quotidien m'a pris à la gorge. Dites-moi qui laisserait passer sa chance pour une vie atroce. Conscient de tout laisser derrière moi, ma famille, mes proches, mes repères. Poursuivre une certaine étoile, la bonne, celle qui j'espère mènera vers les côtes d'Espagne, direction la France pour y construire un avenir noble et stable. Alors je fuis car l'appétit me pousse à être bestial. Je fuis mon frère car ici mon amour propre est sale. Je suis qu'un Algérien parmi tant d'autres qui poursuit sa de liberté, car chez nous elle est devenue méconnaissable. J'ai pris mon sac et quelques photos souvenirs. Et dans la nuit, Inch'Allah, je serai loin cette terre qui m'a vu souffrir. Triste et joyeux, à la fois je dirais même souriant. Savez-vous quel genre d'amertume peut se cacher sous rire? Le départ entre Aïn Tolouk et les Andalous, entassé dans un canon usé par les temps, j'avoue avoir peur. Et par superstition, j'ai mis le manzemzem dans ma gourde, espérant que dans notre périple, la chance se présente à nous. Je m'éloigne de la corniche Santa Cruz, on s'éloigne du bled, nos frères, et s'rappelle. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Mohammed est son envoyé. Tant pis si la mer nous prendra tous. Je donnerai tout pour avoir un.
un peu de votre vie, je prendrai tout. J'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est vaste, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Je donnerai tout pour avoir un peu de votre vie, je prendrai tout. J'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est vaste, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Hey, à tous ceux qui tendent le tout à la nage. Ouais. A tous ces haraga, ولاد المرافال, خلوني نريسكي حياتي, خلو البحر ياكلني. Divers.
Là, vous nous avez fait la présentation finalement de cette réforme là qui est arrivée cet été et qui commence à s'appliquer là tout juste. Donc forcément, c'est pas évident d'avoir du recul au niveau de la pratique. Vous, comment vous le sentez là sur comment ça va s'appliquer et qu'est-ce que ça va entraîner concrètement pour les gens, cette accélération des procédures, parce que finalement, ça se résume quand même pas mal là-dessus, quoi.
Alors, sur l'accélération, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils ne pourront pas accélérer autant qu'ils le voudraient, parce que l'idée quand même de donner 9 mois et 6 mois d'attestation, c'est l'idée de ne pas renouveler. C'est d'arriver à faire les procédures dans ces temps-là. Ce qui, je pense, ils vont avoir du mal, notamment au début. Après, ce qui risque d'être mis en pratique, notamment sur les procédures accélérées, c'est d'aller très vite. Et notamment, on le voit par les 15 jours de délai à l'OFPRA, et ensuite même la CNDA, où maintenant il y a un juge unique, sans audience, qui va être mis en place, avec des délibérés en 1 ou 2 jours. C'est clair que sur les procédures accélérées, il va y avoir une accélération. Les premières répercussions qu'on peut constater, c'est clairement qu'il y a moins, il y a moins de subventions, il y a moins d'argent, il y a moins de possibilités, de moyens qui sont mis en œuvre pour permettre un accueil dans de bonnes conditions pour les demandeurs d'asile. On ne prend en aucune considération les traumatismes qu'ils peuvent vivre, le fait qu'il n'y ait aucun interprète dans les pré-accueils pour permettre aux gens d'arriver, de leur expliquer la procédure. On voit que les structures sont avec des bénévoles qui ne connaissent rien aux procédures qui sont mises en place, et avec des personnes qui ont été formées comme à l'OFI, mais qui n'ont plus le temps de pouvoir accompagner les gens. On se retrouve actuellement notamment à Toulouse avec des associations qui, comme Amnesty ou la CIMAD, sont formées pour aider à travailler le récit avec ces gens qui sont surbookés, qui ne peuvent plus prendre de nouvelles personnes, et avec aucun relais qui puisse le permettre.
Et ça déjà, dernièrement, c'était déjà compliqué avant la réforme de la loi, parce qu'il y a une importance, par exemple, de pouvoir travailler un récit pour la personne. Et du coup, elle arrive avec tous les traumatismes qu'elle a vécu déjà, qui l'a fait fuir son pays parce qu'elle était en danger, et aussi avec le trajet qu'elle a vécu. Donc, il y a un double traumatisme dans tout ça. Il y a un déracinement complet, il y a la perte sans doute familiale. Et comment elle peut avoir... Elle n'a pas de recul sur son récit. Elle a envie de crier tout ce qu'elle a vécu. Et c'est important d'avoir des professionnels comme, par exemple, Amnesty, comme dans plein d'associations, la CIMAD, d'avoir des professionnels qui les aident et qui les guident à bien écrire leur récit, à les dater, à les détailler et à expliquer l'enjeu par rapport à leur danger dans leur pays. Et ça, on voit qu'on perd beaucoup, parce que l'OFI, avant, pouvait travailler les récits, puis ils ne peuvent plus. Donc, depuis un bon moment, les associations ont pris le relais. L'OFI fait que la partie administrative. C'est-à-dire que si on ne leur dit pas qu'il faut qu'ils envoient des preuves s'ils en ont...
Oui, donc on voit finalement, avec ce que vous dites là, qu'on aurait pu voir comme un avantage, en fait, que les procédures s'accélèrent. C'est moins de galère dans la paperasse, sur le côté administratif et tout ça. Mais que finalement, en fait, ça risque d'être en défaveur des personnes qui font les demandes, plutôt que quelque chose qui soulage, quoi.
Clairement, y a quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus quand même de personnes réfugiées en ce moment, qui viennent du Moyen-Orient, d'Afrique, et qui se retrouvent aujourd'hui, là, seulement depuis 3 mois, il y a 300 personnes qui viennent d'arriver, seulement qui ont fait la demande d'asile, on ne compte même pas ceux qui n'ont pas encore fait leur demande, qui se retrouvent sans hébergement, sans possibilité de pouvoir vraiment travailler leur demande d'asile puisqu'il n'y a plus de personnes. Donc c'est des gens livrés à eux-mêmes dans des conditions terribles. On ne voit pas comment finalement ça a amélioré l'accueil des demandeurs d'asile de manière globale.
Ça va être un peu aussi aléatoire parce que pour ce que prévoit la nouvelle réforme, par exemple un rendez-vous à la préfecture sous 3 jours, on sait très bien que les délais vont être compliqués à tenir, par exemple sur Toulouse, on l'a déjà vu que pour l'instant ils n'étaient pas du tout tenus. Au-delà de ça, la réforme prévoit que tout demandeur d'asile ait un hébergement en CADA ou en HUDA ou agréé demande d'asile. Ça veut dire que il faudrait créer, je ne sais, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais à savoir une personne qui est en demande d'asile cette année, il y a 31% des personnes qui étaient prises en charge en CADA qui ont eu le statut de réfugié. Le CADA est une structure qui est adaptée à un demandeur d'asile parce qu'il y a tout l'accompagnement nécessaire. Il y a des équipes avec des travailleurs sociaux, éduc, CESF, assistants sociaux, moniteurs éducateurs. Il y a une juriste, il peut y avoir des TISF aussi. Et du coup, ils vont clairement travailler la demande d'asile avec la personne, prendre en compte les traumatismes. Enfin voilà, c'est adapté, entre guillemets. Après, les conditions des CADA, c'est un autre débat. Ils n'ont pas tous les mêmes conditions d'accueil, ils n'ont pas tous les mêmes politiques selon les associations ou entreprises qui gèrent les CADA. Mais en tout cas, on se pose la question, comment il va y avoir assez de places en CADA pour accueillir tous les demandeurs d'asile? Ça paraît assez irréalisable, quoi. Donc on sait que dans ce temps-là, d'autres personnes vont être à la rue à faire leur demande d'asile et n'auront pas la même chance que leur voisin qui sera pris en charge en CADA. Il ne pourra pas travailler son récit comme celui qui a été pris en charge. Et en plus de tout ce qu'il a vécu, il aura son quotidien à gérer, à savoir comment il va se nourrir, comment il va se loger, où il va aller laver son linge et prendre une douche, quoi. Et ça va se répercuter, encore une fois, sur les personnes qui sont à la rue, donc sur le 115, donc sur les centres d'urgence.
Et ce qui se passe avec la nouvelle réforme, c'est que s'il y a un refus de prise en charge en CADA, ben, c'est la perte de toute aide de la part de l'État. L'allocation et tout type d'hébergement. Alors on ne sait pas encore si ça prend en compte que la demande en CADA ou si les centres d'hébergement seront aussi impactés. Et ils le signent dans c'est une espèce de contrat tacite hein, qui signe en stipulant bien qu'ils ont pris connaissance de s'il y a refus, il y a perte d'aide financière et d'hébergement.
Le contrat, ils le disent, c'est le document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile. Donc la personne est consciente que si elle refuse un CADA, mais sauf que le temps déjà, qu'ils comprennent déjà que c'est complexe pour nous, hein, qui connaissons, pour une personne qui ne parle pas la langue, alors là, normalement, il devrait au moins avoir un interprète pour comprendre tout ça. Et que des fois, les personnes sont juste prises par l'affectif en disant « moi, j'ai fait tout mon exil avec une personne, bien sûr, je ne veux pas être séparée de cette personne. » Sauf que la prise en charge en CADA, elle se fait par unité familiale. Et la famille, au sens strict, c'est-à-dire père, mère, enfant.
Très restreinte, oui.
Voilà, très restreinte. Et que ça sera le GUDA qui va l'inscrire sur le DNA, c'est le dispositif national d'accueil qui répertorie toutes les places en CADA au niveau national et tous les demandeurs d'asile. Donc c'est l'OFI maintenant aussi qui va gérer les places en CADA, qui va dire telle famille part à Marseille parce qu'il y a une place de composition 2 adultes, 4 enfants. Alors que précédemment, c'était la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale, qui gérait ça au niveau national, enfin régional à la base. Du coup, si la personne, par exemple le demandeur d'asile, avait un suivi spécifique médical à Toulouse, ils essayaient de privilégier Toulouse et puis après d'élargir au régional et puis ensuite au national. Voilà, on essayait de pas redéraciner les gens une nouvelle fois. Donc il y avait la DDCS qui essayait de gérer ça. Maintenant, ça va être l'OFI et qui va le gérer complètement au niveau national. Donc, un demandeur d'asile, même s'il a commencé, par exemple, à travailler son récit à Toulouse, eh bien, il peut être envoyé à Metz, à n'importe où en France. Après, on ne sait pas comment ils vont être privilégiés sur la ville où ils ont demandé, où ils ont entamé leur procédure. On ne sait pas comment ça va s'appliquer concrètement. Mais la réforme dit que, respécifie bien que les CADA sont au niveau national, CADA ou HUDA.
Il n'y a que peut-être la prise en compte de la vulnérabilité qui influera en fait sur le CADA.
Ce qui est compliqué, c'est que oui, accélérer la procédure pour qu'il y ait moins d'attente, parce qu'on peut voir aussi des pressions, des décompensations dans cette attente. Une procédure de demande d'asile, jusqu'ici, mettait au moins 2 ans. Donc on peut entendre, et oui, ça aurait pu être positif pour les personnes, parce que c'est vrai que cette attente est très longue. Mais comme ça a été prévu par cette réforme, on ne met pas les moyens, enfin, ça reste mon avis, on ne met pas les moyens en face, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recruté non plus des personnes à l'OFPRA, ils n'ont pas recruté des personnes à l'OFI considérablement, ils n'ont pas créé des places en CADA, enfin, ils en ont créé, mais pas assez. Tout reste pas assez pour pouvoir accueillir vraiment et accompagner les personnes dans leur procédure. Donc, ce que prévoit la réforme, on ne sait pas comment réellement ça va être appliqué, mais on est assez sceptique, les personnes du réseau, celles qui travaillent vraiment avec, qui sont sur le terrain, on reste quand même assez sceptique sur tout ça. Et en sachant aussi que à la fin de la procédure, soit les personnes elles sont à la fin de la CNDA, par exemple, avec la réponse de la CNDA, c'est pareil que l'OFPRA, soit les personnes elles ont fini leur procédure, du coup, elles sont ce qu'on appelle déboutées, sans papier, et elles recevront très rapidement une obligation de quitter le territoire français, une mesure d'éloignement, soit elles seront reconnues réfugiées, elles seront statutaires avec une carte de 10 ans, et la loi aussi prévoit plein de choses par rapport aux réfugiés, parce que le demandeur d'asile, il se prend en compte, enfin ces personnes-là ont besoin d'accompagnement même après être reconnues réfugiées.
Sachant qu'il faut préciser sur ce que tu es en train de dire, c'est que l'obligation à quitter le territoire français, maintenant elle n'aura plus que 2 semaines la personne pour faire le recours contre au tribunal administratif. Et ça, c'est très important parce qu'avant, elles avaient 1 mois. Et qu'aujourd'hui, en 2 semaines, ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent à avoir un avocat, faire une demande d'aide juridictionnelle et le recours en même temps. Donc il faut que les personnes soient vraiment informées de ça. Je pense que c'est une des choses un peu capitales. Sinon, l'OQTF courra et ils pourront à tout moment, sans se défendre, être ramenés à la frontière ou carrément renvoyés dans leur pays.
Alors quand même, pour dire un détail qu'on a oublié de dire, il y a un point positif, enfin il y en a des petits hein, quand même, mais un point positif, c'est que la CNDA, maintenant, l'examen par la CNDA est suspensif. Ça veut dire que les personnes ne peuvent pas avoir de mesures d'éloignement tant qu'ils sont encore en cours de procédure. C'est-à-dire la procédure de demande d'asile va jusqu'à l'OFPRA, mais le recours est pris en compte également à la CNDA, donc c'est suspensif. Voilà. Par rapport juste à la PRADA ou la Croix-Rouge, comme on l'expliquait, pour l'instant, ils se sont engagés jusqu'en décembre. Il y a eu 2 appels d'offres pour que ce soit des associations qui reprennent cette PRADA. Pour l'instant, personne n'a répondu aux appels d'offres. Si personne n'y répond après décembre, ça voudrait dire que ça serait l'OFI par obligation qui serait obligé de reprendre la PRADA. Alors l'OFI qui est déjà submergée ne pourrait certainement pas assumer ça. Et on a un peu peur sur Toulouse, ça se passe sur Toulouse. Mais on a un peu peur de savoir qui, quand, comment et avec quels moyens. Et du coup, le premier accueil qui est un des plus importants, à mon sens, va être quand même dans des conditions très très néfastes. On attend de voir si ça se trouve, il va y avoir des choses aussi très positives.
Oui, et puis il y a un autre point positif, c'est que quand même sur notamment Toulouse et sa région proche, il y a quand même des réseaux qui sont montés, qui essaye justement de se réimpulser et de travailler pour œuvrer au maximum pour les demandeurs d'asile, de mettre en place des choses qui peuvent leur permettre un meilleur accueil. Mais c'est quand même assez positif que les gens, en tous les cas, essayent de se mobiliser. Et du coup, je vais finir, pour ceux que ça puisse intéresser, il y a une formation ouverte qui est faite par Amnesty International et la FNARS le 27 novembre à le lieu de diversité, espace des diversités de la laïcité sur Toulouse, sur toute la journée. Il faut s'inscrire à l'avance, mais c'est ouvert à tous et toutes.
Hilar, celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camions pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à 5, leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elle garde en elle, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure un fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près d'un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Voilà, de retour à l'antenne sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Pour un bout de papier, et on vient d'écouter La Rumeur avec le son un cuir, le cuir usé d'une valise. Pardon.
Ouais, et du coup on va revenir sur la situation un peu des sans-papiers en France. Du coup on voulait parler dans un premier temps, parce qu'en fait bon, c'est vrai qu'en ce moment il y a une solidarité nationale qui est en train de se mettre en place, et bien les polices de France sont solidaires aussi les unes des autres puisqu'elles collaborent de plus en plus, et notamment entre Calais et les autres villes de France. Puis, on va rappeler rapidement la situation à Calais pour faire un petit point. Calais, voilà, c'est en grosso modo, c'est vraiment la merde depuis la fermeture de Sangatte. C'était en 2002. Depuis, les gens qui veulent passer en Angleterre et qui n'ont pas de papier s'entassent un petit peu à droite à gauche et essaient de survivre à cette frontière-là. Et donc, depuis déjà quelques années, là, ça commence à vraiment être critique, la situation sanitaire et sociale est vraiment critique. Il y a le gouvernement qui est un peu emmerdé avec toute cette situation-là et qui essaye de faire quelque chose, mais il le fait très mal. En tout cas, il fait de la merde. Depuis le début de l'année, il y a quand même 21 personnes qui sont mortes à cette frontière, parce qu'en fait, c'est vraiment une frontière entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, ça fait 21 personnes qui sont mortes quand même, c'est pas rien. Et donc, le camp grossit avec les gens qui arrivent en France et qui veulent passer en Angleterre. Et la frontière est toujours aussi fermée. Du coup, plutôt qu'ouvrir les frontières, le gouvernement a trouvé bon d'essayer de virer les gens qui étaient dans le camp en balançant des grenades lacrymogènes récemment, ces derniers jours, en plein milieu d'un camp. Alors, on se demande où ils pensent que les gens vont aller en balançant. Enfin, voilà, ils essaient de virer les gens, mais on se demande où ils iront. Déjà qu'ils sont dans une merde pas possible, alors on comprend pas bien en fait. Et donc il y a eu ces derniers temps, il y a eu des rafles dans ce camp et aux abords pour arrêter un maximum de monde et essayer vainement de vider la jungle de Calais. Alors bon, il y a 6000 personnes, ça s'évacue pas comme ça. Au début, on essayait de virer les gens au compte-gouttes, et puis à un moment donné, ça s'est amplifié. Et c'est là qu'on a commencé à voir qu'à Toulouse, des gens arrivaient, notamment au centre de rétention. Alors du coup, on voulait parler de tout ça, notamment avec Michel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Tu fais partie du cercle des voisins du centre de rétention de Cornebarieux.
Ouais, joli nom, n'est-ce pas ?
C'est pas mal.
On voudrait ne pas exister, mais on existe.
Ouais, alors peut-être tu peux parler déjà du cercle des voisins. Je sais pas, rapidement.
Alors cercle des voisins, on s'est formé à peu près en même temps que le centre de rétention, juste un petit peu après. Pour dire non à l'existence de ce centre qui enferme des gens qui n'ont commis aucun délit, juste ils n'avaient pas le petit bout de papier qu'il fallait pour pouvoir vivre en France et pouvoir avoir un avenir en France. Il existait à Toulouse le cercle de silence qui était à l'initiative des franciscains et qui se réunit une fois par mois place du Capitole. Mais c'est un cercle de silence. Bon, ce silence est un cri, comme ils le disent. C'est aussi, ils refusent aussi le centre de rétention. Mais nous, on a décidé de parler en plus, donc de parler sous forme de tracts qu'on distribue à la radio, comme ici ce soir. Et puis, on écrit beaucoup aux autorités, aux maires, aux défenseurs des droits pour témoigner de ce qui voit pas, de ce qui ne va pas, et ce qu'on voit, nous, ou ce qu'on ne voit pas, puisque le centre de rétention, c'est un lieu de non-droit, et on ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. En 2012, on avait fait une campagne qui avait été initiée par Migre Europe et qu'on avait organisée sur place, en invitant des politiques, des associatifs et des journalistes. On demandait justement à ce que les journalistes puissent aller voir à l'intérieur et dire ce qu'ils voyaient et pour témoigner. Et ça n'a pas pu se faire. Enfin, on y est allé tous les jours pendant une douzaine de jours devant le centre de rétention. On a pu rendre visite à des personnes qui étaient enfermées en allant les voir au parloir, mais on n'a pas pu visiter le centre de rétention, ni les journalistes, seuls les parlementaires.
C'est écrit dans la loi.
Voilà, ont eu le droit d'y aller. Mais certains utilisent ce droit régulièrement et ils vont comme ça à l'improviste, d'autres ne le font jamais.
Et là on va peut-être revenir là, justement sur les derniers jours. En fait, qu'est-ce qui s'est un petit peu joué là, entre Calais et Toulouse là ? Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment vous avez eu un peu les infos et qu'est-ce que vous avez pu
En fait, nous, on travaille beaucoup en relation avec l'équipe de la CIMAD du CRA. Ils sont quatre à travailler là-bas. On est souvent en relation avec eux, on s'échange des infos. Et en fait, ça a commencé le 23. Enfin, on va dire que ça a commencé de façon... massive le 23 octobre. Mais ça avait déjà commencé en fait à la mi-septembre. Il y avait déjà eu des migrants qui étaient au CRA de Coquel. Le CRA de Coquel, c'est celui qui est à côté de Calais, là, ouais. Qui avait été envoyé à Toulouse, hein, pour faire de la place à Coquel, justement. Mmh. Et ça a augmenté au mois d'octobre. Donc le 23 octobre, il y a eu une cinquantaine de migrants qui sont arrivés à Calais. Donc 5 transférés du CRA de Coquel et 45 arrêtés à Calais, donc dans différents endroits. Hein. Ça peut être le port, ça peut être la gare, ça peut être en ville ou à côté d'une route ou simplement raflés dans la jungle. Donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est donc outre le caractère massif de ces arrestations, c'est en fait, je pense, le message qu'a voulu donner le gouvernement. Le message politique et surtout électoraliste,
ouais, ouais.
Aux médias, chose, pour dire on fait quelque chose pour désenclaver un peu Calais. Mmh. Et puis donc on va les éparpiller un petit peu partout dans les différents CRA, parce que ça ne se passe pas qu'à Toulouse, ouais, hein, ça, voilà. Ouais, ouais. Et on va les envoyer un petit peu partout en France. Ça va les occuper un petit moment, les associations et puis tous les juristes qui s'en occupent, ouais. Les juges, les avocats. Et ça fera un peu de l'air à Calais.
Et du coup, à ce moment-là, parce que c'était une opération qui a été planifiée, quoi, par le gouvernement et la police, et ils ont fait, la veille ou l'avant-veille, ils ont fait de la place dans le centre de rétention à Toulouse, déjà. Ils avaient libéré plein de gens qui étaient en attente d'expulsion, et que ça traînait, il y en a tout le temps comme ça. D'ailleurs, le centre de rétention de Toulouse, il est assez spécialisé là-dedans, je crois que c'est un des centres de rétention français, on y reste le plus longtemps. Même quand ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir l'expulser, ils gardent les gens 45 jours.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, là, ils ont libéré tout le monde.
Il faut dire que
la
préfecture à Toulouse est assez dure. Le juge des libertés et la détention aussi.
Ouais.
Voilà, donc à Toulouse.
De toute façon, tout dépend des juges.
On garde beaucoup, on garde longtemps et on essaye d'expulser même avant d'avoir vu les juges parfois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc.
Mais là, les personnes qui arrivent de Calais, c'est des personnes qui ne sont pas expulsables, en plus.
C'est des personnes qui, normalement, ne sont pas expulsables, puisqu'elles viennent de pays en guerre. Mais à la base, ça part d'un gros mensonge aussi, en plus, parce qu'on leur dit qu'on va les retirer de la jungle pour leur offrir un accueil, enfin, dans un centre de répit, ils appellent ça. Mais en fait, ils se retrouvent dans un centre de rétention, quoi, une prison, quoi, en fait. Mais ils ne savaient même pas où c'était Toulouse. Enfin, il faut dire que c'est des gens qui viennent de Syrie, d'Érythrée ou de là-bas. Ils se retrouvent à Toulouse. Bon, voilà, donc c'était la folie, oui, c'était la folie. Et puis, alors nous, on a essayé avec d'autres associations, la CLIM, la LDH, le RESF, de couvrir un petit peu tout, les audiences au tribunal administratif, ouais. Et puis aussi les sorties du CRA.
Alors du coup, juste comment ça se passait? Parce que du coup, en fait, normalement, quand on arrive au centre de rétention, on doit passer devant le juge dans les 5 jours. Et puis il y a le tribunal administratif aussi qui doit confirmer l'arrêté, tout ça. Qui c'est qui les a libérés? Pourquoi?
Alors, parfois, la première semaine, ça a été un peu... les avocats étaient en grève.
Ah oui,
alors,
ça,
en
oui,
fait, les personnes qui sont passées au tribunal administratif, le magistrat a demandé le report de l'audience sur une autre semaine. Donc, la plupart des personnes, en fait, ont été libérées par la préfète elle-même qui avait ordonné leur incarcération au centre de rétention, quoi, en fait.
En fait, ils s'en foutent de les expulser ou pas, ils voulaient juste désengorger Calais, en fait,
voilà.
C'est ça.
Oui,
hein.
Oui,
c'est
oui,
clairement
oui.
Ça,
tout
quoi.
À fait ça. Ouais.
Et alors, du coup, après, il y en a eu d'autres, enfin, ça a continué.
Alors, ça a continué, parce que après le 30 octobre, il y a eu à nouveau 30 personnes qui sont arrivées.
Alors,
juste
place,
souligner, c'est que elles arrivent quand même en avion.
Oui, oui, c'est ça.
En avion de Calais, avec un avion qui a été d'abord loué à grands frais, je crois que c'est 1,5 million. D'euros à une société privée. Ensuite, cet avion ne pouvait transporter que 5 personnes. Donc,
plus
les flics, voilà. Donc, tu peux imaginer le nombre d'allers-retours qu'il a fait au moment où on parle de la COP21.
S'il veut enlever 6 000 personnes, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Extraordinaire. Après, ils ont pris un avion un petit peu plus gros, l'avion de la PAF, en fait, qui pouvait transporter une quinzaine de personnes. Donc,
oui,
il faisait deux allers-retours pour transporter 30 personnes. Voilà. Et ben même type opératoire, quoi, en fait. Les avions sont arrivés et puis ils sont passés. Donc, on a 48 heures pour faire pour présenter le dossier au TA. Le magistrat... là, cette fois-ci, les avocats travaillaient. Donc, ils se sont bien mobilisés pour les défendre. Et je crois que la première semaine, il n'y a eu que des rejets. Le magistrat a rejeté tous les dossiers. C'était un vrai carnage. Tous se sont retrouvés au centre de rétention. Et là, il y a eu des passages...
Quand tu dis qu'il a rejeté les dossiers, ça veut dire qu'il
a refusé la
remise en liberté.
La remise en liberté.
D'accord. Donc, ils sont restés au centre de rétention.
Ils sont restés au centre de rétention. Yes. Mais au bout des 5 jours, il fallait qu'ils passent devant le juge des libertés.
Voilà, c'est ça. Il y a un premier passage devant le TA, donc qui est sur 48 heures pour vérifier la procédure, etc. Mm. Et puis ensuite, c'est le JLD qui doit dire s'il reste 20 jours de plus.
Mais entre-temps, donc, la préfète pouvait aussi libérer des personnes.
Le préfet a tout pouvoir.
Voilà. Et d'autres personnes ont été aussi libérées par le juge de liberté de la détention.
D'accord. Et donc, du coup, tout le monde sortait du centre de rétention. Ils faisaient quoi quand ils sortaient, les gens?
Tout le monde, ou presque, sortait, parce qu'il y en a quelques-uns, des Soudanais, entre autres, hein, qui sont restés au centre de rétention. Qui ont, je pense, été libérés cette semaine, qui ont dû rester 25 jours au centre de rétention.
Une première prolongation, et puis après, libérés. Et du coup, ils faisaient quoi quand ils sortaient? La plupart, ils voulaient remonter à Calais, non?
La plupart veulent passer en Angleterre. S'ils se retrouvent dans la nasse de Calais, on va dire, c'est pour passer en Angleterre. Oui. Pourquoi ils veulent passer en Angleterre?
Non, mais après, c'est pas la question. Voilà, limite, on s'en fout. En fait,
ils parlent la langue. Il y a moins de contrôle. Il n'y a pas de contrôle d'identité en Angleterre. Mmh. Peut-être qu'ils ont un bout de leur famille là-bas.
Peu importe pourquoi ils y vont, limite.
Mais nous, ce qui nous désolait aussi un peu au Cercle des Voisins, c'est qu'on n'avait même pas... d'autres choses à leur proposer, quoi, en fait. On n'avait pas d'accueil à leur proposer, on ne pouvait même pas leur tenir un autre discours.
Quand on voit la situation déjà ici, là, que c'est...
On voit qu'en France, c'est le contrôle prime sur l'accueil. Enfin, pour moi, c'est ça.
Mais du coup, à la sortie de Corne-Barieux, ils ne connaissent pas
Non, je ne sais pas si même les Toulousains, la plupart des Toulousains connaissent le centre de rétention de Corne-Barieux. Ça vaut le coup d'aller s'y balader de temps en temps. Déjà, c'est au bout, là, au bout d'aéroport. Pistes, c'est bruyant, c'est crade, le fossé, c'est crade. Donc, je sais que la première semaine, on avait installé nos banderoles à côté d'une usine qui était juste à côté du centre de rétention. Et le propriétaire, enfin le gérant de l'usine, nous a demandé de les déménager parce qu'il ne voulait pas que son usine soit associée à ça. Mais bon, je ne sais pas, s'il ne veut pas que son usine soit associée à ça, il veut peut-être, je ne sais pas, la saleté qu'il y a à côté de son usine ne semble pas le déranger non plus. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, alors nous, ce qu'on a fait, on a, à part aller à les soutenir au tribunal, on allait les attendre à la sortie du centre de rétention quand on savait qu'ils étaient libérés.
Ouais, ouais.
On leur offrait un petit message de soutien, une bise,
un, peu
un gâteau, quoi, ouais. Un thé. Et puis on allait les reconduire à la gare. Et voilà.
Ok. Et à la gare, par contre, il n'y avait pas de flics qui les attendaient. Tu sais si tu as eu des nouvelles un peu, s'ils ont réussi à remonter?
Alors, on a eu des nouvelles de certains qui sont arrivés à Paris, d'autres qui sont arrivés à Calais. Visiblement, ils n'ont pas été embêtés dans les trains, ni par le contrôleur. Ils montraient, il faut dire que quand ils sont libérés, ils ont un papier qui les protège pendant 7 jours. Ils ne peuvent pas être arrêtés pendant 7 jours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a eu quand même des mineurs qui ont été enfermés, alors que normalement on n'enferme pas des mineurs et
on
ne peut pas les expulser. La préfète de Calais remplissait les papiers comme ça, je pense à la va-vite. Il y avait beaucoup de gens qui étaient nés le 1er janvier 1997. C'est quand même bizarre.
Ouais. Ils étaient tous nés le 1er janvier 1997, ouais. Ouais. Mais ouais, alors sur ces pratiques-là, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, je sais pas, est-ce que ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui? On parlait tout à l'heure du centre de rétention qui était quasi vide en ce moment-là.
Alors, le centre de rétention est quasi vide. Je pense que ça doit être dû à l'état d'urgence, là, parce que effectivement, il n'y a pas eu d'autres transferts. Il y a eu 3 transferts, il n'y en a pas eu cette semaine. Et voilà. Mais les policiers sont occupés aussi ailleurs. Avec l'état d'urgence, ils se retrouvent aux frontières, ils se retrouvent à faire les perquisitions dans les banlieues de Toulouse. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons.
Et sur la position là, du maire de Cornebarieux, sur les logements aussi, des gens qui ressortent et qui veulent attendre un ou deux jours que leurs potes sortent aussi pour les retrouver et tout ça.
Oui, voilà. Bon, j'ai essayé de joindre, j'ai pas eu le maire de Cornebarieux, j'ai eu le service social de Cornebarieux. Ouais. Mais en fait, tout le monde se renvoie à la patate chaude. Il renvoie à la maison de la solidarité du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui renvoie sur le 115, qui renvoie sur la Croix-Rouge.
Oui,
donc voilà, on sait ce que... Voilà. Ouais, okay. Malgré les beaux discours qu'ils peuvent avoir dans les conseils municipaux, on voit que rien n'est fait dans les actes. Après, bon... si on veut accueillir, il faut accueillir bien aussi. Il faut accueillir dans la durée. Donc je pense que peut-être ils veulent prendre leur temps, mais il y a quand même un accueil dans l'urgence qui peut se faire. Si ce n'est héberger une nuit, je pense qu'on pourrait, avoir les mairies devraient avoir un pécule qui serve un peu à ça. Peut-être pas rien qu'aux migrants d'ailleurs, hein, aux gens qui sont dans la rue. Et puis voilà.
Ok. Bon bah voilà, hein, Calais est toujours plein et les gens voilà sont toujours en galère et toujours avec des flics qui leur courent derrière. Ben on suivra de près. On essaye aussi de prendre des nouvelles du centre de rétention. On essaye d'en donner à chaque émission de pour un bout de papier parce que bah voilà c'est juste à côté de chez nous et qu'on a moyen d'avoir des infos. Si vous en avez, voilà, si vous voulez, bah, je sais pas, contacter le Cercle des Voisins, comment on peut vous contacter? Vous avez un mail
Oui, il y a un mail, vous tapez Cercle des Voisins sur Internet.
Il y a un site Internet aussi, ouais.
Voilà.
Okay, peut-être sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez des comptes,
non.
voilà, normal. Ok, ça marche, mais peut-être le temps pour nous de, je sais pas, on s'écoute un son ou quelques annonces, je sais pas trop. On a le temps de faire quoi, là?
Je pense qu'on a le temps de passer les annonces et de savoir les prochaines dates de l'agenda.
Eh bien, très bien. Je les ai pas, moi, les annonces.
Les prochaines dates,
c'est ça. Ouais, voilà, c'est parfait.
Bah, déjà, ce soir, à Compense Caffarelli, à Arnaud Bernard, il y avait un rassemblement à 18h par rapport à toutes les nouvelles perquisitions qui ont été faites et les gardes à vue suite aux attentats de Paris, mais avec aucun lien avec les attentats de Paris. Juste parce qu'ils ont la liberté de le faire maintenant. Donc il y avait un rassemblement à 18h, on ne sait pas encore trop ce que ça a donné. Un autre rassemblement vendredi prochain contre la Manif pour tous, à 19h à Palais de Justice. Le lendemain samedi, c'est contre le meeting du FN, à 18h à Ampalo.
Il y a Marion Maréchal et Louis Alliot là, qui sont là. Donc si vous les croisez, passez-leur le bonjour à votre manière, quoi. je sais pas s'il y a d'autres rendez-vous.
On peut rappeler quand même la journée de formation qui a été dite dans le reportage, qui est vendredi 27, donc vendredi prochain.
Pas demain, mais dans une semaine.
Jours, donc c'est faut regarder sur internet parce qu'il faut s'inscrire. C'est à l'appel de la FNARS et d'Amnesty et c'est à l'espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d'Aubuisson.
C'est gratuit,
c'est gratuit, mais il faut s'inscrire.
Voilà, ça,
ouais. Et l'après-midi, il y a des ateliers. Et voilà. Et ensuite, les rendez-vous de la CLIM, y a toujours toutes les réunions de la CLIM à 19h le lundi, donc au casque, 10 rue du Colonel Drian, métro Saint-Michel.
Ouais, ça, c'est tous les lundis, vous pouvez venir nous rejoindre, c'est à 19h.
Et les permanences de soutien aux sans-papiers, un jeudi sur deux, donc le deuxième et le quatrième du mois. Et ça sera donc jeudi prochain, le 26 novembre, au CCPS, 44 Chemin des Isards, métro 3 Cocu.
Et pour nous retrouver, il y a différents moyens de nous contacter aussi, on peut les donner. Il y a donc la boîte mail clim@riseup, avec l'accent riseup.net, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur le blog qui s'appelle clim.noblogs.org. Ça, c'est voilà, il y a pas mal d'infos qu'on met dessus, les brochures qu'on édite, les tracts qu'on diffuse, les rendez-vous de manif, les sons de la radio et d'autres trucs.
Et on est aussi sur Facebook, nous.
Ouais, on est aussi sur Facebook.
C'est,
ouais.
Bah, c'est Clim,
Clim, ouais. Ouais, collectif de.
C'est LIME.
Ouais, je sais pas, c'est LIME.
Et on met aussi les rendez-vous,
voilà.
Normalement. Et des fois des débriefings, des manifs.
Et si vous voulez nous envoyer des courriers, faites-le, envoyez-le à Canal Sud, émission pour un bout de papier, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse.
Et ce que je peux rajouter, il y a le festival Migrants Scène qui commence aussi de la CIMADE, qui commence ce vendredi, et pendant du 20 au 27, je crois.
Et c'est où ?
Un peu partout dans Toulouse et même dans toute la région.
Rencardez-vous sur le site internet. Solène, t'as le programme. Vas-y, ouvre-le et dis-nous un petit peu ce qu'il y a dans ce festival. Moi, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Je sais pas, non ?
Non, je sais pas ce qu'il y a exactement. En tout cas, il y a plein de choses parce qu'il y a plein de pages. Et c'est du 13 au 28 novembre, c'est ça ?
Ça a commencé, du coup.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, ça commence ce vendredi, là.
Bah, si c'est du 13 au 28, on est le 19. Bon, bref. Rencardez-vous sur Internet, il y a sûrement le programme sur Internet. Ouais. On t'entend pas beaucoup parce que t'es loin de ton micro. Ok, en tout cas, voilà. Donc, rendez-vous dans un mois, le troisième jeudi du mois, 19h-20h sur Canal Sud. On partage le créneau avec Brutal et L'Envolée, qui sont des émissions anticarcérales. Écoutez-les aussi, c'est intéressant. Et puis, en attendant, prenez soin de vous parce que là, c'est pas gagné en ce moment. Et ouais, faites attention quand vous vous baladez dans la rue, il y a des gens qui sont armés. C'est pas forcément ce qu'on croit. générique Martoni.
Tout à fait, et bonne soirée et courage à ceux qui sont enfermés en centre de rétention et tous les autres.
Et tous les autres.
Salut.
Salut.